Allez, il est tout juste 8 heures sur les ondes de Radio Marquise, comme nous l'annoncions donc, depuis cette semaine. Voilà, notre invité de ce matin dans les studios de Radio Marquise est M. Jacques Jacopo Pello. Bonjour Jacques.
Et bonjour Carano.
Alors Jacques, troisième édition donc, du Salon du Livre cette année sur Nukuhiba. Peux-tu nous dire un peu plus donc, sur cette troisième édition du Salon du Livre sur Nukuhiba, puisqu'après il se déplacera du côté de Huapo.
C'est ça, oui, la première édition avait eu lieu en 2014, 2016 et maintenant 2018, avec différentes formes. Hein. Une première fois c'était à Tuona aussi, la deuxième fois c'était Nukuhiba seulement, cette fois-ci c'est un peu aussi Huapo. Et donc, je ne suis pas membre du bureau de l'association culturelle PAEVI, hein, qui organise cette manifestation culturelle avec les éditeurs de Tahiti. Donc, le Salon du Livre se tiendra le lundi, à partir du lundi prochain, lundi, mardi et mercredi, à la bibliothèque municipale médiathèque de Nukuhiba de Taiohae. Et un certain nombre d'écrivains polynésiens seront présents. Il y a des écrivains de Tahiti, comme par exemple Flora Devatine, que tout le monde connaît, et aussi Tita Wapeu, Patrick Chastel aussi, qui est un grand amoureux des Marquises et qui a écrit encore pas mal de livres cette année, qui continue. Et puis aussi des écrivains de Nukuhiba, c'est-à-dire par exemple Marie Tearere Teikitohe, qui a écrit avec son papa Pierre Teikitohe de Taipivai un livre qui raconte une légende très bien illustrée, une légende d'une flûte. Une flûte qui part du Pérou et qui dérive sur l'océan, qui arrive aux Marquises. Donc c'est une histoire d'amour aussi en rêve. C'est un très joli livre en marquisien. Et puis, bien sûr, la traduction du livre que j'ai faite du journal marquisien d'Edouard Robart. Mais moi, je ne suis pas un auteur, je suis un traducteur. Il y a aussi un ouvrage de Anne qui confirme sa présence aussi avec Moetai. Car ils ont quelque chose à présenter aux enfants marquisiens aussi. Et aussi Teikihu Kena pour ses livres sur le tatouage. Donc tout ça, il y aura des ateliers auxquels assisteront beaucoup d'enfants des collèges, des écoles. Et puis tout le public, tout le monde. C'est une manifestation publique, donc tout le monde pourra venir à cette manifestation.
D'accord. Une manifestation, Jacques, sur combien de jours?
Alors cette manifestation, j'ai dit, c'était lundi, mardi et mercredi. Hein, premier, 2 et 3. Et donc il y a aussi des conférences, des discussions, des ateliers et bien sûr les gens qui travaillent peuvent venir le soir, peuvent aussi acheter des livres, regarder tous les livres qui sont publiés à des prix bien plus intéressants qu'à Tahiti parce que c'est des prix spéciaux. Et voilà en gros. Et ensuite le mercredi après-midi, nous déplacerons, mais pas les éditeurs, il n'y a que les auteurs qui se déplaceront à Huapo avec le même système. Donc c'est Jacques Vitellini qui organise cette manifestation à Huapo, le libraire de Huapo. On se connaît depuis plus de 20 ans, puisqu'il était arrivé à Huapo après mon arrivée en 95, donc 96-97 par là. Il est installé avec son épouse là-bas. Et puis il a un peu insisté pour qu'on reste le samedi parce qu'il y a la Ranoui. Donc les gens de la Ranoui pourront aussi profiter de ce salon du livre marquisien. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, au salon du livre de Nukuhiba, mais avec une excursion à Huapo, quoi.
Et ça va se passer où, Jacques?
À Huapo, je ne sais pas exactement, hein, mais je pense que c'est à la...
C'est sûr que ça va être dans la vallée de Hakahau.
Ah oui, c'est à Hakahau, bien sûr. Hein. Donc dans le détail, ça devrait être peut-être à la librairie de Jacques, mais ça m'étonnerait, c'est peut-être un peu petit. Donc ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, les gens de Huapo, de Hakahau le sauront.
Jacques, quelques nouveautés donc, cette année, donc, de cette manifestation, troisième édition quand même du Salon du Livre sur le Nukuhiba. À part le journal...
Bien, il y a beaucoup d'ouvrages, mais il y en a trop. Je peux pas vraiment vous donner la liste. Il y a des ouvrages de toutes sortes. Je sais que il y a par exemple un traité sur l'adoption en Polynésie. Il y a aussi des textes religieux. Il y a aussi plein de choses. C'est très 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 varié. Et puis il y a tous les anciens manuels. Hein, et surtout, ce que je disais, c'est que les prix sont plus intéressants. Donc les livres coûtent toujours très très cher en Polynésie. C'est vraiment une chose que je regrette. Parce que les livres en France, ça vaut 15-20 euros, c'est-à-dire un peu plus de 2000 francs. Quoi. Ici, à cause des taxes qu'il y a sur l'encre, sur le papier, sur plein de choses, les livres, les éditeurs sont obligés, ce n'est pas eux qui décident des prix, c'est le marché. Ils sont obligés de mettre les prix presque le double. Et pour un Polynésien, 5000 francs, c'est quand même une sacrée somme quoi, hein, pour mettre dans un livre, même si c'est un livre intéressant. Mm-hmm. Donc ça, quand on aime les livres, on sait que c'est vraiment un handicap pour la culture en général en Polynésie. Il faudrait vraiment que plutôt que de rabaisser les taxes sur l'alcool, le gouvernement baisse les taxes sur les bouquins. Ça serait quand même plus intelligent, je trouve.
Alors, Madame Pérou, donc c'est une première au Salon du Livre donc, cette année, Jacques.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Un beau livre, Madame Pérou.
Oui, Tita Wapé, oui. Absolument. Donc là aussi, c'est des gens avec un... Il y a aussi des poèmes, hein. Mais c'est Flora Devatine plutôt les poèmes, hein. Tita Wapéhu, elle a écrit un très, très joli... Elle s'attache aussi à décrire la Polynésie qu'on ne voit pas, quoi. C'est-à-dire la Polynésie des pauvres, la Polynésie des fonds de vallée, les gens qui souffrent tout le temps, c'est-à-dire la moitié de la population, quoi, hein, qui, plus de la moitié, qui est sans travail, qui est obligé de vivre dans des conditions difficiles. Et c'est vrai que certains écrivains polynésiens se luttent, hein, pour qu'on arrête d'afficher la Polynésie comme un paradis. C'est un paradis pour les gens qui ont de l'argent, mais c'est pas un paradis pour les gens qui en manquent, hein. Donc faut pas oublier de le dire, ça aussi. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi de la vraie Polynésie. Et donc partout, dans toutes les îles, il y a des gens qui ont de l'argent. Tous ceux qui sont fonctionnaires, ils gagnent bien leur vie. Et les autres, il faut qu'ils se débrouillent pour pouvoir vivre avec ce que la nature leur donne aussi, hein. Et l'artisanat, bien sûr. Heureusement qu'il y a le tourisme.
Voilà, tout ça donc à découvrir lundi matin. Vers quelle heure, Jacques?
Alors à partir de 8h, je pense, hein, cet après-midi, le bureau de l'association PAEVI a sa dernière réunion, donc on fera le point, puis on prendra des décisions, mais je pense que c'est pas à 7h du matin, je pense qu'à partir de 8h, j'ai vu qu'ils avaient mis un chapiteau, donc il y a 2 ans, on avait fait une ouverture officielle avec monsieur le maire et des jeunes du CED qui étaient venus danser, hein, donc je pense que c'est une manifestation culturelle importante pour les Marquises. Et donc, c'est quand même la troisième fois que les éditeurs de Tahiti se déplacent. Il y a de plus en plus de livres sur les Marquises maintenant. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé aux Marquises, il y a 25 ans, il y avait très peu de choses, que des récits de voyage du style Thora Heyerdahl, traduit de l'anglais aussi, hein. C'est Séjour à Fatouiva, ou bien un autre explorateur dont j'ai oublié le nom. C'est ce qui se passe quand on passe à la radio, on oublie les noms. Mais bon, il faudrait les écrire avant. C'est un explorateur français qui était resté sur Fatouiva dans les années 50 et qui a écrit un livre ensuite là-dessus, l'archipel du Tiki aussi. Voilà. Donc, plus petit à petit, les livres sont sortis. Hein. Ça a commencé par le premier dont je me souviens quand j'étais à Wapo, c'est le livre qu'avait traduit Monseigneur Lecléa, justement, sur Greg Denning en 1999. Hein. C'était un des premiers grands ouvrages. Et puis en 1997, il avait sorti son premier lexique marquisien français. Hein, vous vous en souvenez, le petit livre marron. Et puis à partir de là, il y a eu quelques livres. Mais par exemple, le livre de Crook, du pasteur Crook, ce n'est qu'en 2007 qu'il est sorti.
Hein, donc il avait commencé donc à traduire le livre
alors, de Crook. Ah oui, c'est vrai. Que ce que tu dis,
moi. En 1996, Jacques.
Ah non, ça c'était le livre de... Le livre de Crook, tu as raison, pardon. Excuse-moi, là je mélange les deux. Le livre de Crook, effectivement, il avait commencé à travailler Monseigneur en 1996, quoi.
Voilà.
Et donc il a fallu 20 ans, pardon.
En 2007.
Donc c'est énormément de travail, parce que, en particulier, les noms de famille marquisiens qui étaient difficiles à imaginer à partir de l'écriture d'un Anglais, quoi, qui écrit un peu n'importe comment. Les Anglais, comme ils prononcent le mot élastique, ils prononcent caoutchouc, donc c'est un peu difficile pour... Donc on en reparlera tout à l'heure à propos du livre de Robarts, si tu veux, parce qu'il y a aussi une partie écriture du marquisien dedans.
Oui. Autre chose à rajouter, donc,
non, parce que voilà, si je faisais partie du bureau, je pourrais plus m'étendre, mais j'ai dit l'essentiel, c'est pas la peine d'en étaler plus. Rendez-vous donc lundi matin à Nukuhiva et mercredi après-midi ou peut-être jeudi matin à Hakahau. J'ai dit à Taiohae et Hakahau.
Voilà. Donc deux vallées qui auront l'occasion d'accueillir cette troisième édition donc, du Salon du Livre.
Oui.
Marquisienne, donc Jacques. Alors, ce qui nous intéresse vraiment, Jacques, c'était l'ouvrage, donc le journal journal marquisien, pardon, d'Edouard Robarts.
Robarts.
Oui. De 1798 à 1806.
Oui. C'est ça. Pourquoi ces dates-là? Alors, Robarts était un marin, peut-être boulanger à bord du bateau sur lequel il naviguait. C'était des pêcheurs de baleines, hein, des baleiniers. Et le jour de Noël 1798, le 25 décembre, il a déserté le bateau parce qu'il avait senti que ses camarades, les autres marins, voulaient se rebeller contre le capitaine. Ils ne voulaient pas participer à cette rébellion. Il voulait pas non plus rester, mais il s'est senti obligé. Donc il est resté. Il était à ce moment-là, il était en baie de Vaitahu à Tahuata, et il est resté. Il a donc déserté avec un Hawaïen qui habitait là-bas, qui s'appelait Tama ou Tom, qui s'appelait Tom ou Tama selon les gens. Et c'était un Hawaïen qui avait même visité Boston en Amérique, donc il connaissait bien les deux cultures. Mais il habitait à Tahuata avec le chef Tainai. Et c'est Tama qui l'a aidé a déserté et très vite Tainai lui a dit ne reste pas à Vaitahu parce que les gens vont dire au capitaine que où tu es. Donc il est parti avec, il a rencontré tout de suite le chef de Hapatoni et il est parti à Hapatoni en pirogue le soir même et il est resté un an à Tahuata à naviguer, à visiter toute l'île. Vaitahu y revenait souvent. Hapatoni il était aussi très souvent, mais il traversait aussi les crêtes et il allait de l'autre côté à Hanatetena et d'autres vallées. Voilà ça, la première année, donc 98, déjà on est en 99, toute l'année 99 pratiquement, il la passe à Tahuata. Donc, il est, à cette époque-là, il faut dire que les gens, les Marquisiens, ne connaissaient pas d'Européens, très très peu, c'est 1798, hein, 19. Ils avaient vu le pasteur Crook avant, hein, juste un peu avant, ça c'est aussi très intéressant. Pendant que Roberts était à Tahuata au début de son séjour, Crook était ici chez Kiatonui pendant un mois. Les quelques derniers mois de l'année 98 et début 99, ils étaient tous les deux aux Marquises parce que Crook a quitté les Marquises au début de janvier 99. Il est rentré en Angleterre pour expliquer ce qu'étaient les Marquises, écrire un dictionnaire et des choses comme ça aussi. Il n'est revenu que beaucoup plus tard, en 1823.
Alors que Roberts est encore donc sur les Marquises, mais du côté de Tahuata.
Oui, voilà. Donc un an à Tahuata. Et puis un jour, le chef de Tahuata dit « Il faut que j'aille voir ma famille à Rivaoa ». Donc il affrète une grande pirogue et il part à Rivaoa. Mmh. Et donc ils arrivent vers le sud, au sud de Rivaoa, sud-est, et ils vont tout de suite à Puamau. À Puamau, c'est de l'autre côté de l'autre côté de l'île. Et après, Robert sera basé sur Puamau et il est ami avec les chefs de Puamau. Et ensuite, il va se lier d'amitié aussi avec des chefs de Hanaiapa et Hanatekua aussi au nord. Hein. Et voilà, donc il navigue entre plusieurs vallées. Et très vite, le problème se pose pour lui, comme il y a des guerres incessantes entre les tribus, de faire des choix. Donc c'est aussi pour ça qu'il s'en va. Parce qu'il ne veut pas faire le choix d'une tribu plutôt que d'une autre, puisqu'il est ami avec toutes les tribus, pratiquement.
Mais il est quand même resté un an sur...
Ah oui, un an. Et un an à Tahuata et un an à Rivaoa, entre Puamau et les vallées dont j'ai déjà parlé. Et il va aussi Hanahehe ou Hanatehe, qui est au sud, une vallée du sud, hein, le plateau de Ha'amao, que les gens de Rivaoa connaissent bien, qui fait face à Tahuata au sud. Et c'est aussi un jour, là, il est avec une jeune femme, et il voit un bateau qui passe entre les îles, donc il descend, et il va le rejoindre à Tahuata aussi, parce que c'est lui, son boulot, c'est ça. Pour lui, c'est ça, c'est servir les bateaux de passage, parce qu'il connaît les gens, il connaît un petit peu les coutumes, et donc il connaît les endroits où il faut aller et il ne faut pas aller. Donc c'est ça qu'il recherche tout au long de son livre, aider les bateaux de passage aussi, hein, c'est son activité principale. Et donc il choisit un petit peu ses vallées de résidence en fonction, et il voit bien qu'arriver à Oua, c'est très compliqué. Pour lui, la meilleure baie de Rivaoa pour le mouillage, c'est Hanaiapa. Mais en fait, les gens ils vont plutôt à Tahuata, ils longent par le sud, ils vont très peu au nord, quoi. Donc, à une autre occasion, il entend un des chefs de Puamau qui a de la famille ici à Nukuhiva, du côté de Hakapuva, hein, dans la baie du contrôleur. Donc, il profite de cette occasion aussi pour venir à Nukuhiva. Il passe par Huahuka parce que ce chef de Rivaoa a une première femme qui est de Huahuka et avec laquelle il a eu deux filles. Donc il rend visite à sa famille. Ils ne sont plus ensemble, mais Robert se dit que les femmes de Huahuka sont sûrement pour lui les plus belles femmes de toute la Polynésie. C'est au moins ce qu'il a retenu. Et il l'a écrit dans son livre. Et ensuite, donc, à partir du début 1801, il arrive à Nukuhiva, donc dans la vallée de Hakapuʻuwa. Il se rend d'abord, il évite les Taipi, hein. On se rend bien compte qu'il évite les Taipi. Là, il est chez les Hapa'a de Hakapuʻuwa. Et là, il fait le tour en pirogue pour aller au nord, même si c'est des gens de l'Alliance Taipi. Donc, il va peut-être visiter les gens de Anaho. Mais comme il ne donne pas de nom, c'est très compliqué. Hein? Il dit qu'il n'a jamais allé à Atiheu. Donc, c'est forcément Anaho. Il revient. Et ensuite, parce qu'il a rencontré un autre Anglais à Hakapuʻuwa, qui s'appelle Walker. Un Anglais qui est arrivé là, qui a déserté un bateau, mais qui ne parle pas le marquisien, qui est perdu et qui ne sait pas vraiment quoi faire. Donc il est très content de voir Roberts et ils sont ensemble et ils vont rester ensemble, amis, pendant quelques temps. Et donc, il prend la route à pied entre Hakap Uvai et Taiorae, et en chemin, il traverse la tribu Rapa'a, qui l'accueille très bien. Et c'est là donc qu'il rencontre un homme que nous connaissons, qui s'appelle Mawatei'i, ou Teimoea aussi, selon les gens, mais c'est Mawatei'i, dont nous avons un portrait fait par les Russes en 1804, qui est le gendre de Kiatonui, parce qu'il a épousé sa fille aînée, Tahatapu, ou bien Tahiatapu, ou Tahapu, ou Tahiapu, il y a plusieurs noms, quoi. Et ce sont les parents de Pa'etini. Et en 1801 ou 2, elle a 5 ou 6 ans. Et on dit que c'est l'enfant chéri de sa grand-mère, donc Putahai, la mère de Kiatonui, parce qu'effectivement c'est une enfant de sang royal et qu'elle a déjà des serviteurs pour s'occuper d'elle. Or, quand il traverse cette vallée, le chef Mawatei'i échange le nom de son fils avec Robarts. Donc Robarts échange déjà son nom avec le frère de Pa'etini, mais on ne connaît pas le nom de ce garçon, parce qu'il est cité nulle part. C'est le seul endroit où on entend parler de ce garçon. Tu vois ? Alors là, je peux faire une pause, parce que j'ai parlé de Tawata et de Vaitahu et aussi de Hiva'oa. J'ai dit à cette époque-là qu'il y avait très peu d'Européens. Et donc, les polémarchisiens, les Blancs, étaient des divinités. Ça, c'est difficile à comprendre de nos jours, mais c'était comme ça. Donc, les chefs se battaient littéralement pour avoir ce Blanc chez eux. Donc, ils naviguaient. Dès qu'il était quelqu'un, on envoyait un émissaire, un messager pour dire « Il y a telle personne de telle vallée qui t'invite aussi. Dès que tu auras fini là, tu vas aller. » Donc, il n'a pas arrêté d'aller de vallée en vallée. Et c'est ce qu'il voulait faire, aussi bien connaître les marquises. Et d'être, mais il était dans des conditions extrêmement favorables, puisqu'il était tout le temps reçu par les chefs, hébergé par les chefs, nourri par les chefs. Donc il était, et en plus c'était bon pour sa sécurité, personne ne pouvait l'attaquer, parce que dès qu'il échangeait son nom avec quelqu'un, il faisait partie de la famille. Donc c'est ce qui va se passer aussi à Nokuhiva pendant 5 ans, entre 1801 et 1806. Alors là, c'est quand même l'essentiel du livre, hein, son séjour à Nokuhiva. Donc on apprend beaucoup de choses sur tous les aspects de la culture marquisienne, hein. On apprend des choses sur le rôle des prophètes, Tawa. Lui, il les appelle pas les grands prêtres, ceux qui étaient avec les chefs Haka'iki, qui étaient un peu les guides spirituels de la tribu. Il les appelle des prophètes parce qu'il a remarqué qu'ils rentraient en transe. Hein, ils rentraient en transe à certains moments. Ils réclamaient des victimes humaines pour telle ou telle raison. Et surtout, il disait, ça y est, il faut qu'on fasse la guerre à tel ou tel endroit, j'ai vu telle chose et il faut qu'on aille faire la guerre. Et aussi, il prophétisait d'autres îles, c'est-à-dire qu'il disait, il faut aller à tel endroit, parce qu'à tel endroit, il y a des îles merveilleuses, et si vous y allez, vous vivrez heureux. Donc Robarts, il critique un peu cette attitude, parce que les gens ne revenaient pas, ils se perdaient en mer souvent la plupart du temps. Donc, lui, il les appelle les prophètes, par exemple. Tu vois, tout le temps, ces grands prêtres qu'on appelle Tau'a en marquisien. Et il en fait des descriptions très intéressantes. Un jour qu'il était à Hakapa, il était invité par un des chefs de Hakapa, parce que la famille de Teihi est très alliée. Hein. On voit bien sur une carte toute la partie ouest de Nukuhiva, depuis Taiorae en passant par Uka et Hakaui et Hakatea et tout le reste, Haahopu et Terre Déserte, jusqu'à Hakapa, ça c'était une alliance. L'autre côté c'était les Taipi. Sauf que les Hapa'a qui étaient au sud-est, entre les Teihi et les Taipi, étaient un peu entre les deux, parce qu'ils étaient très proches des Teihi, et même on apprend dans le livre que Mawatei'i habitait ce qu'on appelle la vallée française maintenant. À l'occasion d'un conflit, on voit bien qu'il est tout près. Il n'est pas de l'autre côté des crêtes, là, du côté de Teuhitua ou ailleurs, ou tu vois, il est plutôt de ce côté-là. Donc ça explique la raison pour laquelle Pakoko habitait aussi cette vallée, parce qu'il était d'origine Rapa'a aussi. Donc très proche. Même dans la vallée Teihi, il y avait beaucoup de Rapa'a de ce côté est, parce que c'était proche de leur vallée. Donc on apprend beaucoup de choses. Les sacrifices humains, la consommation de chair humaine, même si Kiatonui dit que tout le monde ne mange pas la chair humaine. Il n'osait pas trop en parler. Hein. Mais en fait, c'était les grands prêtres. Quoi. Il raconte, on amène une femme qui a été capturée et le grand prêtre lui brise le crâne et mange le cerveau cru, comme ça, quoi, devant lui. Mais il y a d'autres scènes comme ça de sacrifice. Et puis, par exemple, aussi ce qui est très très touchant, il était absolument interdit à l'époque, l'arbre à pain étant la seule nourriture, le fruit à pain étant la seule vraie nourriture, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Les marquisiens ne salaient pas non plus la viande autrefois. Ils ne connaissaient pas la salaison. Peut-être qu'ils connaissaient le séchage des poissons, des choses comme ça. Mais la base, c'était le mât. Hein, le mât, vraiment, c'était la grande richesse de tous les marquisiens. Il était donc interdit d'insulter un arbre à pain. C'est-à-dire de dire... Pourquoi tu ne me donnes pas, espèce de couillon, pourquoi tu ne me donnes pas de fruits cette année? C'était interdit, c'était puni de mort. Et il raconte deux exemples de femmes qu'il connaissait qui ont été tuées par le grand prêtre parce qu'elles avaient maudit l'arbre à pain. On peut dire des choses hein, en marquisien ou en français pour insulter quelqu'un, mais ça, ça passe. Mais si c'était pour insulter un arbre à pain, on était puni de mort. Même si c'était quelqu'un de ta famille, tu devais le dire au grand prêtre. Il raconte deux scènes extrêmement touchantes où on va dans la case de la femme, l'étrangler par l'extérieur avec une corde et ensuite, voilà. Donc c'est des choses très très touchantes, il y a ça. Il y a aussi les rites funéraires, mais ça tout le monde les connaît parce que c'est la même chose qu'on voit dans tous les livres. Hein. Mettre le mort asséché, le masser pendant des semaines et ensuite le garder dans la maison. Hein, le garder dans la maison pendant quelquefois 6 mois quand c'était un fils de chef ou de grand prêtre. Et ensuite quand il est tout sec, tout dur, on enlève les os, on se les partage et on les répartit dans la famille. Quoi. On va mettre le crâne quelque part et les os dans la montagne ou des choses comme ça. Donc il y a plein de choses. Le rôle des femmes, très très important, les femmes chez Robarts. Il est très pudique, il ne parle jamais de sexe ou de quoi que ce soit. À chaque fois qu'il arrive quelque part, il est obligé de dormir avec la femme du chef. Donc il explique que lui, il n'est pas habitué à ça. Donc on lui amène une autre jeune fille. Et tout de suite, les femmes lui apportent leur cape, ce qu'on appelait le kahu autrefois. Le kahu, ce n'était que la cape qu'on mettait, la cape de tapa qu'on mettait sur les épaules. C'était un vêtement sans manches, c'est ça qu'on appelait kahu. Et lui, il l'appelle mantle en anglais. Ça ressemble à manteau en français. Parce qu'il n'a pas de mot pour dire ce que c'est. S'il met le mot marquisien, personne ne va comprendre. J'ai oublié de te dire une chose, c'est qu'en fait, il a vécu aux Marquises, ensuite il est parti à Tahiti, il voulait s'installer en Australie. Son but, c'était s'installer en Australie. Mais comme il n'avait pas assez d'argent, on a refusé son installation en Australie, alors que c'était des Anglais qui colonisaient l'Australie. Mais il n'avait pas d'argent, il fallait être riche pour pouvoir s'installer en Australie à l'époque. Donc il est parti en Nouvelle-Zélande, il est parti vers Bornéo, par là il a fait des voyages vers l'insulin, de ce qu'on appelle maintenant Java, Bornéo, tout ça. Et puis il est allé en Inde, à Calcutta, une première fois. Puis il est redescendu en Australie jusqu'à Tasmanie, puis il est remonté. C'est un homme qui a beaucoup voyagé avec sa première femme marquisienne. Il a une femme qui était la sœur de Kiato Nui. Et ensuite, elle est morte. Tous ses enfants sont morts les uns après les autres. Il a eu plusieurs enfants, au moins 5 ou 6 au total. Il ne lui restait plus qu'une fille quand lui a terminé son journal. Donc, il était tellement pauvre en Inde que c'est un aristocrate anglais, parce que l'Inde était colonisée par les Anglais, qui lui a dit « Moi, je m'intéresse beaucoup aux civilisations du Pacifique. Écris-moi ton journal et je vais te loger. À ce moment-là, je te paierai en logement avec ta famille. » Et donc, ce monsieur qui s'appelait le docteur Leyden l'a payé pour qu'il écrive son journal. Et donc, il l'a écrit environ 10 ans ou 15 ans après avoir quitté les Marquises. Il n'a pas écrit ici, il n'avait pas de papier. Il le dit, qu'est-ce que ça me manque le papier. Et quand il apprenait des mots, il avait un endroit de la rivière où il habitait, en haut au fond de la vallée Méa, il y avait un gros caillou avec des cailloux blancs. Il écrivait sur le caillou les mots qu'il croyait entendre pour s'en souvenir.
Justement, Jacques, parce que j'allais te poser la question, donc toute cette vécue de Robarts donc, sur les Marquises. Voilà, donc la question était, donc, est-ce qu'en même temps, donc, il a vécu donc, tout... C'est vécu donc sur les Marquises en écrivant en même temps.
Non. Là. C'est ça que tu voulais me poser la question, mais non. Quelquefois, il arrivait à avoir des papiers sur les bateaux, mais c'était le papier à l'époque, ça coûtait très cher. Hein. C'était des papiers naturels, donc ça coûtait cher. Donc il a, et puis ça se serait peut-être pas conservé bien ici avec l'humidité. Mmh. Donc il écrivait. C'est après qu'il a écrit quoi. Hein. C'est après qu'il a écrit son journal sur commande en quelque sorte, en se rappelant tous ses souvenirs. Essayant de se souvenir, il avait quand même une bonne mémoire, hein, parce que c'est ça. Et après, ce journal est arrivé en Angleterre. Il est conservé à la Bibliothèque nationale d'Écosse, où les Australiens l'ont découvert dans les années 1960, et où Greg Denning l'a publié, après l'a travaillé dessus, publié en 1974 en anglais.
Alors, le journal marquisien donc, a été écrit du côté de l'Inde.
C'est ça, exactement, à Calcutta même, oui.
Calcutta.
À Calcutta, oui. Et
là où il est... la demande d'un médecin, donc...
Voilà. C'est ça, qui voulait aider aussi cet homme. Et parce que comme il était linguiste aussi, il lui a donc donné, et c'est ça, c'est la deuxième partie du livre sur laquelle je reviendrai peut-être après, il lui a donné une liste de 1400 mots en anglais pour lesquels Robarts devait trouver un équivalent marquisien. Parce que ce monsieur-là, il connaissait les langues de Bornéo, de Java, de Timor, etc., de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, et il voulait avoir un exemple de langue polynésienne. Donc pour moi, c'était trop difficile de travailler là-dessus, parce que les mots marquisiens sont écrits par un anglais il y a 200 ans, avec une prononciation qui est absolument incompréhensible de nos jours. C'était trop difficile pour moi et ça ne m'intéressait pas vraiment. Moi, je préfère le marquisien de notre époque. Mais par contre, ça a intéressé un linguiste de Tahiti que beaucoup de marquisiens connaissent, qui s'appelle Michael Corr, hein, qui était co-organisateur du festival de Nukuhiva en 2011, hein, un monsieur avec un grand chapeau, et qui parle aussi bien, qui parle très bien le marquisien, qui parle plein de langues polynésiennes. Et lui, quand il a vu ça, il a dit c'est formidable, je vais travailler là-dessus. Donc, le livre que vous pourrez voir lundi, c'est un livre d'aventure. Ce monsieur qui raconte toutes ses aventures aux marquises pendant 7 ans. Et aussi, pour les spécialistes de la langue marquisienne, une partie qui est vraiment très, très, très spécifique, qui va intéresser beaucoup de linguistes.
Alors, en tout cas, c'est un livre d'aventure, parce que oui. Robarts donc, a vécu sur les marquises pendant 7 ans. Voilà, donc tout ça à découvrir lundi matin au salon du livre, du côté de Taïouraï. Alors, bien sûr, l'ouvrage sera présenté en avant-première, Jacques.
Oui, c'est une avant-première. Moi, j'ai traduit ce livre entre août et décembre 2016. 6 mois pour le traduire. C'est-à-dire que d'abord, je ne savais pas si j'étais capable de le faire, parce que c'est la première fois que je faisais une traduction. Bon, mes études, j'ai fait 5 années d'études à l'université, j'ai enseigné pendant 40 ans, donc l'anglais pour moi c'est un petit, mon petit jardin, quoi, hein. J'ai vécu beaucoup en Angleterre, je parle bien anglais. Et ce qui est très très... ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est pourquoi personne ne l'avait traduit avant.
Et quelle était la difficulté, Jacques ?
Eh bien, la difficulté, moi, je ne l'ai pas vue tout de suite, puisque je voyais bien qu'il y avait des fautes. En fait, le manuscrit de Robarts fait 150 pages écrites à la main, écrites à la plume, une écriture absolument magnifique, très, très jolie. C'est vraiment une très jolie écriture, mais c'est 150 pages écrites d'un seul tenant, sans paragraphe, sans chapitre, sans ponctuation, et avec plein, plein, plein de fautes de grammaire et d'orthographe. Parce que c'était un homme, un marin, mais il savait bien écrire sa langue, mais il faisait des fautes. En 1800, c'est quand même pas mal, hein.
Oui.
Faut quand même pas, faut pas se plaindre, hein, de quelqu'un qui savait, un marin qui savait écrire. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient analphabètes, hein. Et donc, Greg Denning, que tout le monde connaît aux marquises, et qui est un homme que j'admire beaucoup, j'ai pas pu le connaître parce qu'il est mort en 2008, mais moi je travaillais à cette époque-là, donc j'avais mon travail de prof, je pouvais pas tout faire. Et il a entrepris donc la publication de ce livre en 1974. Il a mis quelques chapitres pour que ça soit plus lisible aux anglophones, mais il a gardé dans l'impression, même en anglais, il a gardé toutes les fautes.
Toutes les fautes.
Et apparemment, les gens m'ont dit que c'était ça. Enfin, ceux que j'ai vus qui connaissent le sujet m'ont dit, ben, c'est ça qui nous a découragés, parce que on ne savait pas quel était le vrai mot qui était derrière cette faute. Parce qu'il y a des mots qui ont beaucoup de sens et on ne pouvait pas savoir. Donc ça a découragé beaucoup de gens. Mais moi, en tant que professeur d'anglais, j'en ai vu des fautes pendant 40 ans. Hein. Donc je connaissais les fautes, je les voyais et je savais quel était le vrai mot derrière cette faute-là. Donc ça ne m'a pas posé de problème à moi. Ce qui était plus difficile, c'était tous les termes de marine du 19e siècle. Les noms de petits bateaux, les noms des voiles, les choses comme ça, les noms des mâts. C'était compliqué, donc il a fallu que je fasse des recherches. Et puis aussi son style. Parce qu'il a un style très classique aussi. Comme il ne savait pas comment écrire, il a écrit en imitant les romanciers du XVIIIe siècle. Donc, quelquefois, c'est un peu ampoulé. Par exemple, il dit « Je prie, mon cher lecteur, de bien vouloir m'excuser, de faire une digression. » C'est un peu poli par moments. Il ne parle jamais de femmes, il parle toujours de dames et de demoiselles, par exemple. Donc, ça a un certain charme. J'ai bien aimé ça. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ça se lit comme un roman d'aventure. Donc, n'importe qui peut lire, il n'y a pas de complications. Et on apprend énormément, énormément de choses sur les marquises anciennes, sur les danses. On voit bien que les hommes et les femmes ne dansaient jamais ensemble, toujours séparément, et que les costumes des femmes étaient extraordinairement confectionnés avec du tapas de toutes sortes, des nœuds, des turbans. Enfin, si les marquisiens qui le lisent sont intéressés dans la culture marquisienne pour les danses, ça va donner rien à voir avec ce qu'on peut voir de nos jours, hein, ces petits paréos en feuilles. Les feuilles, si. Mais les femmes portaient des feuilles quand elles allaient se baigner, pour cacher leur sexe devant et derrière. C'est à peu près le seul moment où les femmes portaient des feuilles de haouti. Sinon, elles avaient tout le temps, autour des reins, un petit jupon de tapa qu'on appelle ka-e-ou, e-ou, hein, juste ça, et le reste du corps était ouvert, les seins étaient à l'air. Seulement, les filles de chef, les femmes de chef, elles avaient une grande cape sur les épaules, blanche, pour se protéger du soleil. Elles sortaient peu souvent, elles étaient souvent dans leur case, et elles avaient en plus un très joli turban en tapa sur la tête. Et les bijoux, bien sûr, aux oreilles, des dents de cachalot, des choses comme ça. Tout ça, c'est extrêmement bien écrit. Et quand Robarts a finalement, au bout de 3 ou 4 ans, épousé la sœur de Kiatonui, qu'il appelle Hinaoteata dans son livre, mais ça ne correspond à aucun nom qu'on connaît, qui avait 18 ans à peu près. Lui, il était plus âgé, il avait presque 30 ans, Robarts, hein. C'était un homme qui avait déjà beaucoup bourlingué, il avait participé à l'esclavage aux Antilles, il avait voyagé en Russie, enfin, il avait été en Égypte, donc il avait déjà une belle expérience. C'était un homme mûr, quoi. Et après, on voit bien qu'au fil du livre, il est chef. Il a tout le temps son éventail, il a tout le temps des serviteurs avec lui, il a tout le temps son turban aussi sur sa tête, il a tout le temps sa fronde et ses lances avec lui, donc il fait vraiment partie, et il donne des ordres et les gens obéissent, il n'y a pas de problème. On voit bien à notre époque, il n'y a pas de période vraiment de famine comme autrefois, de période de sécheresse. Des sécheresses qui pouvaient durer 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te rends compte? Moi, ça fait 25 ans que je suis au marquis, je n'ai jamais vu ça encore. Mais à l'époque, il y avait des périodes de sécheresse, et comme il y avait beaucoup plus de monde sur les îles, c'était difficile de nourrir les gens. Il y avait peut-être 20 000 personnes à Nuku'iwa, 20 25 000, 30 000 peut-être, sur toutes les îles, puisqu'on estime au maximum que sur toutes les marquises, vers 1800, il y avait à peu près 100 000 personnes. Hein? Donc, et après, en 1842, quand la France est intervenue, il ne restait plus que 20 000 personnes. Hein? Ça fait déjà... Donc pendant les 70 ans que les Anglais ont régné sur les marquises, parce que c'était les Anglais et les Américains qui faisaient le commerce jusqu'à l'arrivée des Français en 1842, ce sont les Anglais et les Américains qui ont provoqué la décrépitude des marquises. Quoi. Et un jour, donc, il apprend qu'à Wapo, il y a tellement de morts que les arbres à pain sont pleins de fruits que personne ne mange. Donc ils envoient des pirogues à Wapo, et là il est sur la plage, mais pas cette plage, pas Vainaho, la plage de l'autre côté là-bas, dont le nom marquisien est Tikeihehu, après le Pai Pai. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est Tehei qui m'a dit ça, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc c'est là la plage royale. Derrière le Pai Pai Pikivehine, tout le monde se souvient, ceux qui ont plus de 40 ans, qu'autrefois c'était la mer arrivée au pied du Pai Pai, et que d'ailleurs c'était une belle plage de sable, hein. Donc ça c'était la plage royale. Donc les pirogues arrivent là, et il y a une pirogue double qui arrive, pleine de fruits à pain, pleine de mail, et il y a tous les pauvres de la vallée qui arrivent, les femmes en particulier, dont les maris sont partis à droite à gauche, et avec leurs enfants qui disent « s'il te plaît, donne-nous un peu de... » Et les gens ne veulent pas. Et arrive Robarts, il plante sa lance dans une des deux pirogues accouplées, et il dit au propriétaire de la pirogue « la moitié de la pirogue c'est pour vous, le reste vous le donnez aux gens ». Et Kiatonui arrive, il lui dit « qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « voilà, j'ai fait ça ». Il a dit « mais... jamais personne n'a fait ça avant toi. Tout le monde se souviendra de ce que tu as fait pour ces pauvres-là pendant des générations. » Tu vois, c'est des choses comme ça qui sont très touchantes aussi. Et ce Pai Pai Pikivehine, chaque fois que je passe devant tous les jours, je pense à Robarts puisqu'il a dormi dedans. Ce Pai Pai appartenait à la mère de Kiatonui qui s'appelait Putahai'i. Et c'était une salle de réunion au bord de mer, c'était agréable forcément, hein, où la famille se réunissait. Et quand il arrive en 1801, tout de suite... la mère de Kiatonui aime beaucoup Robarts et lui dit « tu restes avec nous et tu n'as qu'à rester dans cette maison en bord de mer ». Donc il a dormi là, à cette époque-là. Donc c'est vraiment fantastique de savoir que Robarts a dormi dans cette maison en 1801 et jusqu'à ce qu'il soit marié. Après, il habitait tout près de chez Kiatonui, au fond de la vallée Me'ao, et là j'y suis allé. Ceux qui connaissent la vallée Me'ao et les bassins, c'est là qu'était le Pai Pai du chef. Quand on descend, au fond, légèrement à droite, il y a un petit cabanon avec une citerne et un grand poteau électrique, et derrière il y a un Pai Pai complètement effondré qui se trouve au croisement de deux rivières qui descendent de la cascade et du fond de la vallée Me'ao. C'est là qu'habitait le chef. Ce Pai Pai s'appelle Otahu. C'est ce que je pense, parce que ça correspond exactement à la distance que donnent les Russes. Ils disent que le Pai Pai du chef se trouve à 1000 nautiques du bord de la mer. Or, ça fait exactement 1860 mètres. J'ai calculé avec ma voiture, c'est exactement la distance à 100 mètres près. Et il n'y a pas d'autres grands Pai Pai autour. Et donc, les gens de la mairie m'ont dit... Jean-Marc m'a dit, il m'a donné un plan pour que je puisse le mettre pour l'exposition. Il m'a fait une petite carte, il m'a imprimé une carte, Jean-Marc. On voit bien le Pai Pai et tous les trucs, un truc très, très officiel, quoi. Et ce Pai Pai a été complètement ravagé en 1983 par l'inondation qui a causé beaucoup de ravages avec El Niño, quoi. Donc il y a plein de choses à dire, tu vois.
Et voilà que Robarts a vécu quand même cette période de sécheresse. Jacques, donc à chez nous, donc à Nuku'iwa.
Oui, pas une seule, hein, plusieurs.
Plusieurs.
Oui, oui. Plusieurs, il y a eu celle-ci, mais il y en a eu d'autres, une période qui a duré. Sur ces 5 ans, les 5-6 ans qu'il a passé à Nuku'iwa, il y a eu au moins 2 périodes différentes de sécheresse. Quoi. Et il raconte qu'au fond de la vallée Me'ao, il y avait des gens qui habitaient, et que quand il est revenu de Wapo une autre fois, il est allé 2 ou 3 fois à Wapo, les morts restaient dans les maisons, quoi. Les gens n'approchaient pas les maisons tellement ça sentait mauvais à cause des morts qu'il y avait dedans, à cause de la famine. Et à ce moment-là, il n'y avait que les familles des chefs qui pouvaient manger parce qu'il n'y avait qu'eux qui avaient les terres et qu'il n'y avait qu'eux qui avaient les réserves. On peut parler de l'ancien temps en disant que c'était sûrement bien, mais il y a aussi un très mauvais côté, c'est que c'était une société extrêmement inégalitaire. Les chefs, 10% à peu près de la population, ils avaient tous les biens, tous les avantages, tout passait pour eux, et ensuite... les autres passaient vraiment, vraiment, vraiment derrière. Et quand il y avait de la famine, c'était les familles des chefs, grâce à leurs tatouages qui leur donnaient l'autorisation d'aller à la... certains tatouages qui leur donnaient l'autorisation d'avoir accès à la nourriture. C'est pour ça qu'ils avaient les terres, pour être sûr de ne pas souffrir de la sécheresse. Mais tous les autres mouraient. Tous les autres mouraient. Et comme il n'y avait que l'arbre à pain, Et quand il y avait de la sécheresse, il n'y avait plus non plus de patates douces, il n'y avait plus non plus d'igname, il n'y avait plus tout ça. Et c'était, il n'y avait plus que le poisson, quoi. C'était compliqué, quoi. C'était très compliqué.
Jacques, est-ce qu'à un moment donné, dans l'ouvrage de Robarts, puisqu'il a été quand même nommé en tant, comme un chef,
ah, oui.
Est-ce qu'à un moment donné, il a dit qu'il a été tatoué, Jacques ?
Oui, il a été tatoué, il a plusieurs tatouages, en particulier... Il a un tatouage, le tatouage que ceux qui viendront à l'exposition pourront voir, puisque grâce aux explorateurs russes qui sont venus en 1804 et qui nous ont donné cette explication, l'officier russe qui s'appelait Krusenstern écrit dans son journal que 26 hommes de Taïohae portent le même tatouage sur le torse. C'est juste entre les deux titis, là en haut, un espèce de damier en forme de trapèze. Juste comme ça, c'est pas un carré, c'est plutôt un trapèze entre les deux poitrines. Hein. Et donc, Robarts portait ce tatouage aussi, et tous les hommes qui ont été dessinés le portent, qui a Tonui, on le voit, et les autres, Mawatei, ils le portent. Et Krusenstern le dit qu'il y avait 26 hommes qui portaient ce tatouage. Ils étaient tous membres de la famille de Kiatonui. Soit ses frères, soit ses beaux-frères, soit, comme Robarts, un allié. Parce que Robarts était à la fois... petit-fils de Kiatonui par l'adoption, mais aussi beau-frère de Kiatonui par son mariage. Donc quelquefois dans son livre, il parle de son beau-frère, il appelle tout le temps Kiatonui le roi. Tous les étrangers appelaient le roi, hein. Même si de nos jours on sait qu'il n'y avait pas de roi à Nukuhiva. Il dit il n'y a pas de roi à Nukuhiva, mais il y a un grand chef, et c'est Kiatonui qui est respecté de tous.
Alors qu'il décidait de tout.
Oui, mais en même temps, les Russes disent bien qu'il n'y a pas moyen de se faire obéir, que les Marquisiens sont très indisciplinés, que même si le chef dit quelque chose, quelquefois les Marquisiens n'obéissent pas, quoi. Hein. Donc il y a des choses pour lesquelles il n'avait pas d'autorité. Par exemple, avec Crook, hein, c'est un exemple qui me reste, mais ça date de Crook, mais c'est la même époque, les Anglais avaient des grosses truies sur leurs bateaux, qu'ils élevaient avec les déchets. Et Kiatonui, il dit, mais c'est formidable, ces gros cochons, j'en veux un comme ça. Donc les Anglais du Butterworth donnent à Kiatonui une grosse truie énorme, qui devait faire 200 kilos presque peut-être. Hein. Et après, lui, il dit, je vous donnerai 100 cochons contre cette truie. Mais quand il a voulu récupérer les cochons, les gens ont dit, ah, toi t'as eu la truie et nous on est obligé de donner nos cochons, c'est pas tes cochons que tu donnes, c'est les nôtres. Et donc il a eu beaucoup de mal ensuite à récupérer des cochons pour faire son échange. Donc il y avait une autorité, mais ça n'avait rien de royal ou impérial, comme par exemple à Tahiti, où il y avait un chef, un Ari'i qui commandait, etc. et tout le monde obéissait, ou à Hawaï aussi, où il y avait un grand chef. Non, Marquis, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il y avait une grande indépendance d'esprit. Une grande indépendance d'esprit, il n'y avait pas d'esprit national. C'est aussi pour ça que les Marquisiens n'ont pas pu résister aux étrangers, parce qu'ils n'avaient pas d'unité nationale. Ils étaient trop impliqués dans leur guerre tribale, les uns avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle Robarts est parti, parce qu'il fallait qu'il choisisse entre ses amis, entre tel clan ou tel clan avec lesquels il était ami, et il ne pouvait plus. Il n'en pouvait plus de ça. À la fin de son journal, il raconte un épisode extrêmement intéressant aussi, où on apprend qu'avant son arrivée, des guerriers de Kiatonui avaient carrément confisqué la terre de la grande sœur de Kiatonui, qui devait être, à mon avis, la vallée Hoata, parce que c'est tout près de Me'ao. Il parle d'une vallée qui est tout près de Me'ao, donc il n'y en a pas 50, c'est pas du côté est, c'est forcément Hoata. Et quand il entend parler de ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez confisqué cette terre à la sœur du roi? D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il est le premier à parler de cette sœur. Par exemple, Crook ne parle pas de sœur. Tout le monde croyait que Kiatonui était le frère aîné. Non, c'est pas vrai. Il avait une sœur avant et encore un frère, qui ne sont pas mentionnés. On ne connaît pas les noms, ça c'est le grand défaut de Robarts. Il ne donne pas de noms, à part quelques noms de vallées à Tahuata et Hiva'oa. Et ici, quelques noms de vallées, mais il donne très très peu de noms. Heureusement qu'il y a eu Crook avant, sinon on aurait été perdus, quoi. Hein. Parce qu'on peut replacer les noms. Il parle de Kiatonui, mais c'est très rare les autres noms, quoi. Et donc, lui, il intervient. Il dit à Kiatonui, il faut faire quelque chose, mais Kiatonui, donc c'est pas mes affaires. Et donc, lui, il intervient auprès de la mère, Putahai'i, dont c'est la fille. Il convoque son père adoptif, Mawatei, et sa fille, et leur dit, il faut absolument qu'on récupère les terres de cette sœur. Et c'est là qu'on comprend que Mawatei, donc chef Hapa'a d'origine, menace de rentrer en guerre contre les guerriers de Kiatonui. Pas contre Kiatonui, mais contre ses guerriers. Et finalement, grâce à cette pression, eh bien, on restitue à sa sœur les terres qu'elle avait perdues entièrement, c'est-à-dire depuis le fond de la vallée Huata jusqu'en bas de la plage du Pai Pai, quoi, par là. Donc il y a plein de cérémonies, d'échanges de cadeaux, de choses comme ça aussi. Pour les traditions, c'est formidable. Les palmes, les cocos, un certain nombre de nœuds sur un tapa. Le tapa revient avec moins de nœuds ou plus de nœuds. Ça symbolise des choses que Robarts ne comprend pas. Il va falloir que des gens s'y intéressent. Il y a des choses, par exemple, il y a des batailles. Il y a une rivière. Les gens qui sont d'un côté de la rivière discutent entre eux. Mais dès qu'ils traversent la rivière, ils se battent. et ils reviennent, ils arrêtent, ils font la paix, ils repassent du côté où il y a la paix. Donc c'est des choses qui sont incompréhensibles pour un Européen. Il va falloir que des Marquisiens se penchent là-dessus pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Parce que c'est vraiment intéressant.
5 ans sur les Marquisiens.
Plus que ça, ça fait 7 ans.
7 ans
au total, 7 années complètes. Un an à Tahuata, un an à Hivaoa et 5 ans à Nukuhiva.
Avec un Marquisien bien parlé peut-être.
Au début, il a eu beaucoup de mal. Hein. Il a eu beaucoup de mal au départ et c'est après, je pense que c'est à Tahuata et surtout à Hivaoa qu'il a commencé à... Parce que quand il est arrivé à Nukuhiva, il se débrouillait très bien déjà en Marquisien. Mais il a eu du mal. Je pense que les Russes, en 1804, quand les Russes sont passés, ils disent que Cabri, le Français qui habitait là, parlait mieux le Marquisien que Robarts. Mais le marquisien et le français ont beaucoup de points communs au niveau des voyelles. Hein. Mmh. Un A c'est un A, un O c'est un O, un OU c'est un OU. Mais tandis que dans les autres langues, un A anglais c'est un A ou un R. Alors un petit truc amusant qui me vient à l'esprit, le mot péto. N'est-ce pas, tout le monde connaît, tout le monde sait qu'au nord on appelle les chiens péto. Et au sud on l'appelle nouré ou quelque chose comme ça. Mmh. N'est-ce pas, nouré. J'ai entendu plein de choses sur l'origine de ce mot, que ça venait de l'anglais pet. Mais c'est pas du tout ça. C'est parce que le premier chien qui est arrivé à Nukuhiva s'appelait Peto.
D'accord.
C'était le pasteur Crew qui a amené un espèce de grand dog, un peu comme le chien qu'avait le frère Rémi avant, cette espèce de grand chien comme ça. Tout le monde avait peur de ce chien à Nukuhiva. Et quand Crew est parti, il l'a laissé à Kiatonu. Il s'appelait Peto en anglais. P-A-T-O. Et donc, comme le premier chien qui est arrivé à Nukuhiva s'appelait comme ça, tous les autres chiens ont pris ce nom à la suite. Et on l'apprend par Robarts. Un jour, il y a un bateau qui arrive et le capitaine dit à Robarts, est-ce que vous connaissez un chien qui s'appelle Peto ici à Nukuhiva? Robarts dit oui, il est chez le chef qui a ton ouïe. Eh bien, c'est mon chien. En fait, je l'avais donné à tel capitaine. J'ai appris qu'il l'avait laissé ici. Maintenant, je veux le récupérer. Donc finalement, Peto est parti de Nukuhiva sur un autre bateau. Et en échange, on a donné 2 autres chiens au chef qui a ton ouïe. Et Robarts avait aussi un chien ici, un chien un peu plus petit qui s'appelait Neptune. Mais quand j'ai lu ça dans Robarts, j'ai dit, mais c'était Eureka, comme disait Archimède, j'ai trouvé. C'est ça l'origine du mot péto. C'est que le premier chien, vraiment le premier chien qui est arrivé à l'époque, il n'y en avait pas du tout, s'appelait péto, tout simplement. Et donc après, tous les autres, ils l'ont appelé du même nom.
Du même nom.
Voilà. Mais ça, c'était péto en anglais. Pato, péto, c'est pareil. Voilà, on va peut-être s'arrêter là, hein, parce que ça donnera aux gens, Mais ça, c'est vraiment un truc amusant.
Oui.
C'est vraiment un truc amusant, et parce que tout le monde disait, oui, ça vient peut-être de l'espagnol, etc. Non. C'est ça, l'origine, et je suis content d'avoir contribué à trouver cette origine-là. Voilà, on va s'arrêter là, parce que autrement, on va dormir ici ce soir.
Hein. Voilà, donc...
À moins qu'il y ait d'autres questions à me poser.
Non, pas du tout, Jacques. C'est tellement intéressant. Donc, le journal Marquisien d'Edouard Roberts, de 1798 à 1806, donc, traduit en langue française.
Voilà, c'est ça.
Même, Jacques. Et puis que nous aurons bien sûr l'occasion de le découvrir.
Voilà, alors justement, j'ai.
L'ouvrage est arrivé.
Alors l'ouvrage, on en avait parlé tout à l'heure, donc j'ai dit que je l'avais traduit à la fin 2016, et ensuite en 2017, j'en ai plus entendu parler. Et puis, quand l'association EVI a décidé de faire le salon du livre marquisien en octobre, les éditeurs ont dit qu'il faut absolument qu'on mette le paquet pour qu'il sorte à Nukuhiva, ou aux Marquises en tout cas, en premier. Parce que c'est un livre extrêmement important, parce que maintenant on a Crook, porteur en 1804, Robarts entre 1800 et 1806, ensuite il y a les Russes aussi, le livre sur le journal des Russes est sorti depuis très longtemps, mais les gens ne le savent pas, on peut l'avoir même gratuitement sur Internet. Hein, le journal des Russes en 1804, mais Madame Govor a publié un énorme bouquin qui va nous raconter tout le séjour des Russes à Nukuhiva, encore une fois, avec un côté un peu plus scientifique aussi, d'études, de documents et plein de choses. Et donc, la première décennie du 19e siècle est très très connue maintenant. Alors, quand ils ont appris qu'ils allaient sortir ce livre, évidemment, on s'est mis au travail tous les jours. Moi, j'étais en conférence avec Skype, avec mon éditeur, pour régler des problèmes de vocabulaire, des problèmes de signification, des doutes sur tel mot, etc. Ça a été très compliqué tous les jours, hein, presque tous les jours, 1 ou 2 heures sur Skype. Et là, le livre est sorti la semaine dernière. Mais c'est une édition spéciale marquise. Elle est conforme à ce que sera le livre. Mais si tu veux, pour l'avoir plus vite... Ils ont fait une édition, ce qu'on appelle numérique, c'est-à-dire une photocopie en fait. Mais pas des photocopies n'importe quoi, c'est un vrai bouquin, seulement ça coûte très très cher, beaucoup plus cher à imprimer que le livre final, quoi, pour eux. Donc ils sont obligés de faire un espèce de rapport de prix. Et pour les marquises, ce livre, à Wapo et à Nukuhiva, il sera vendu 3 800 francs. Mais quand il sortira à Tahiti, il sera à 4 900. C'est l'éditeur qui m'a appelé hier pour me dire « dis bien ça ». Donc les gens de Nukuriva et de Wapo bénéficieront d'un prix spécial. D'abord d'une primeur en avant-première et ensuite d'un prix spécial parce que les livres sont vraiment très chers. C'est vraiment un regret que j'ai personnellement. Les livres, quand tu vois des livres, quelquefois, moi j'en achète sur Internet, ça ne coûte rien quand on les achète. Ils sont imprimés en Inde, on ne paye même pas le port. Et ici, c'est vraiment un obstacle à la culture, ça. Hein. Voilà, les prix seront ceux-ci. 3800 à Nukuriva et Wapo. Et ensuite, à partir du moment où il sera imprimé en offset, c'est-à-dire comme tous les autres livres, eh bien, à ce moment-là, il sera beaucoup plus cher parce qu'il y a des frais, il y a beaucoup de frais. Et puis, c'est beaucoup de travail, c'est 2 ans et demi de travail. Hein. C'est extraordinaire comme bouquet. On ne peut pas s'imaginer avant qu'un livre demande autant de travail que ça. C'est aussi pourquoi j'avais choisi les éditions Haerepo, parce que je savais que ce sont des gens extrêmement sérieux, qui adorent les marquises et les marquisiens, qui font tout ce qu'ils peuvent pour diffuser la culture marquisienne dans toute la Polynésie et dans le monde entier. Et donc, je savais qu'ils seraient très exigeants avec moi, mais c'est ça que je voulais. Je ne voulais pas qu'on fasse n'importe quoi avec ce livre. Je voulais que ça soit vraiment un livre qui reste presque pour l'éternité. Il ne faut pas oublier qu'à partir de maintenant, il y a 400 millions de personnes qui parlent le français dans le monde qui pourront le lire, alors qu'avant c'était réservé aux anglophones. C'est aussi, il ne faut pas oublier ça, même si ce n'est pas près d'arriver que 400 millions de personnes le lisent. Mais en tout cas, c'est disponible, ça sera disponible à tous les gens qui parlent le français.
Très bien, Jacques.
Je suis assez fier de ça, c'est ma contribution. Tout ce que je fais, je vais dire une chose, je n'ai pas l'habitude de me vanter, hein, mais tout ce que je fais pour les marquises ou pour les marquisiens, c'est gratuit. J'ai renoncé à mes droits d'auteur sur ce livre. Tous les droits d'auteur seront reversés à l'association PAEVI. Donc je ne touche rien du tout, je ne touche pas un franc sur ce bouquin. Si je veux l'avoir, il faut que je l'achète. Tu vois, j'en ai quelques-uns pour moi, qu'on me fait cadeau, c'est normal. En tant que traducteur, j'en ai une dizaine gratuits pour moi, pour mes amis, pour ma famille, mon frère, qui sera un plaisir de le lire.
Ne m'oublie pas, Jacques.
Oui.
Ne m'oublie pas, Jacques.
Oui.
Jacques, juste une question. Donc, on peut nommer sur le journal, ce journal marquisien de Robat, la traduction, Jacques, les recherches sur des mots en anglais.
Oui.
Il y a un vécu aussi, Jacques.
Ah oui, oui. Alors ça, c'est une belle expérience. Oui, c'est gentil de me parler de ça, parce que c'est vrai que c'est le côté technique, ça, hein. Et les éditeurs m'ont dit, il faudrait que tu parles de ça à Nukuriva. On m'a dit, il faudrait que tu parles de ça. Il y a un professeur d'anglais du collège de Wapo, Marie, qui m'a appelé hier pour me dire, je vais faire venir mes élèves au salon du livre à Kahao, mais je voudrais que tu leur parles de ton travail de traduction. Moi, quand je vois un film, par exemple, je me repose sur mon fauteuil et je regarde le film. Je m'en fous complètement de la façon dont il a été fait. Tout ce qu'on appelle making of et tout ça, la technique, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est être là pendant 1h30 à oublier le reste et regarder mon film. Alors, je comprends que les gens s'intéressent à ça. Moi, ça ne m'a pas posé de problème particulier, sauf quand il s'agissait de termes de marine. D'abord, je ne suis pas marin du tout, je ne connais pas les pièces d'un bateau, déjà en français pratiquement. Si, je connais le mât d'Artimon, cargué et drossé ou je ne sais plus quoi. Maintenant, ça ne me vient pas à l'esprit. J'ai fait un peu de voilier quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Mais heureusement, grâce à Internet, même si ça ne marche pas bien, on arrive quand même à avoir des dictionnaires en ligne en anglais, quoi, hein, anglais-français, etc. Donc tu tapes ton mot anglais et tu as des traductions. Donc ça, c'est pas aussi difficile. Mais heureusement que j'avais gardé tous mes dictionnaires, que j'ai toujours d'ailleurs, tous mes dictionnaires d'étudiants, en anglais, anglais-anglais, pas anglais-français, hein, des dictionnaires anciens qui m'ont permis d'aller jusqu'au fond des mots et de trouver la vraie signification en demandant à droite, à gauche, à des spécialistes, à Kevin aussi en anglais, ici sur le quai, ou à des marins, des voyageurs, leur demandant quelle est la partie du bateau, à quoi ça se réfère, etc. Et ensuite, Madame Koenig, Denise, elle a relu une fois, deux fois toute la traduction, et dès qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, elle m'appelait, on faisait le point et on essayait de voir ensemble. Donc oui, c'est un vrai travail de spécialiste. Hein. Mais moi, c'était aussi au départ ce qui m'intéressait, c'était plus le côté historique. Tu sais que je suis fan, hein, je travaille beaucoup sur l'histoire, malheureusement.
Ça, je t'ai posé la question,
oui.
Jacques, est-ce que tu vivais aussi l'aventure?
Ah ben oui, carrément, mais je la vis tous les jours, moi.
En traduisant le journal.
Oui, absolument. Un mot très très touchant de Greg Denning, à la fin de son livre, tout à fait à la fin. Il est venu ici rencontrer Monseigneur de Cléage plusieurs fois. Ils étaient très proches. Monseigneur de Cléage connaissait beaucoup de choses des marquises que Denning ne connaissait pas. Donc il venait demander conseil à Monseigneur Hervé sur certaines choses, et puis l'écouter, puis voir son vécu, tout ce que Monseigneur avait compris des marquises. Hein. C'était très important. Tous les jours, sa présence nous manque. Comme Lucien Roho, c'est pareil, ce sont des gens qui manquent aux marquises, hein, qui étaient des lumières, des phares, qui permettaient de voir le passé et le futur, l'un et l'autre. Hein, c'était des lumières dans les deux sens, quoi. Donc ce sont des gens qui manquent beaucoup à tout le monde. Et il écrit à la fin de son livre, je suis assis là sur les marches de l'évêché, face à la mer, tout est calme, J'entends les oiseaux chanter, les coqs, etc. Et d'un seul coup, en ayant parlé avec Monseigneur Hervé, je me dis que qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir appris le marquisien. Parce qu'en fait, je connais beaucoup plus les morts que les vivants. Et moi, je ne veux pas être comme lui, je ne veux pas vivre avec les morts. Je vis ici au Marquise avec les vivants. J'ai cette chance de vivre ici au Marquise avec les vivants. Donc, mon travail, enfin, ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien permanent entre le passé et le présent. C'est pour ça que je dis que l'histoire est nécessaire. Il a écrit une chose, je vais la dire en marquisien. Monseigneur a écrit ça. Ano e pohu e meta e te tawaka o te tumu aka tini tini te taupuku me te manini. Donc quand les racines de la culture vivent, quand elles vivent, mais dans le passé, c'est dans le passé qu'il faut trouver ces racines-là, pas inventer n'importe quoi. Ensuite, la vie de tous les jours, elle est belle. Parce que c'est comme ça, c'est dans le passé. En français, on dit aussi, c'est la vigne, hein, c'est notre image, notre culture, à nous la vigne, qui prend ses racines dans le fond de la terre pour donner des fruits qui sont sucrés. Ben, c'est la même image, tu vois. Les pays se rejoignent à 20 000 km, on a les mêmes notions de choses. C'est la terre, c'est l'histoire qui nous nourrit. Nous ne sommes rien, nous sommes juste là pendant 70 ans, 80 ans, nous sommes de passage. Avant nous, il y a eu des dizaines de milliers de personnes. Après nous, j'espère qu'il y en aura autant. Et c'est ça, c'est cette petite période, surtout quand on est à la retraite comme moi, qu'il faut utiliser pour servir à quelque chose. Faire le lien entre le passé et le futur, pour que les gens puissent continuer quand on ne sera plus là. Et que même si on ne laisse pas beaucoup de traces, il y a quand même, on a servi un petit peu à quelque chose, à transmettre, quoi. C'est ça, transmettre. On est là pour passer le message. On a reçu quelque chose et on le passe.
Jacques, l'édition Hairepo, son avis, donc aujourd'hui, puisque le livre est fini.
Oui, il est fini, oui.
Qu'est-ce qu'ils pensent ?
Ah, ils sont très heureux. Ils sont très heureux parce que...
Ils ont essayé.
Ah oui, eux aussi, c'est par eux que j'ai appris qu'effectivement, ils avaient essayé de traduire avec plusieurs personnes et ils se sont découragés. Ils ont traduit certains passages qui les intéressaient, mais ils n'ont pas pu, comme avec Krug, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Krug, ça a duré 20 ans. Et moi, je leur ai apporté sur un plateau en 6 mois, quoi. Du coup, ils ont terminé ce qu'ils étaient en train de faire. Et après, quand ils ont eu fini, à partir du mois de janvier-février de cette année, là, ils se sont attaqués à l'édition, à la publication. C'est très, très compliqué. Il faut vérifier tous les mots. Ouais. Heureusement, il y a des logiciels de correction maintenant qui te montrent. Il y a des fautes de français, mais ça, c'est que les fautes. Quelquefois, il y a des phrases qu'il faut reprendre. Quand on lit, on ne comprend pas. Quelquefois, j'ai fait des erreurs de traduction aussi, je l'admets, ça m'est arrivé. Hein. Donc, Denise me disait, mais là, est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qu'il fallait dire ? On reprenait tout et on... Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité aussi, parce que si tu dis, ah ben, j'ai traduit comme ça, c'est comme ça, voilà, tu ne peux pas t'entendre. Tout le monde fait des erreurs. Et si j'avais su que c'était comme ça, il y a longtemps que je l'aurais repris moi-même une fois, deux fois, trois fois, que je l'aurais relu et corrigé, amélioré, cherché d'autres mots. Parce que quand tu es dedans, comme ça, moi je traduisais une ou deux pages par jour, mais une ou deux pages, c'est 3 heures de travail. Quelquefois, j'y passais 4-5 heures par jour à le faire, de soir jusqu'à 10 heures, parce que c'était tranquille. Quoi. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, puis il faut bien maîtriser. Alors ça aussi, il faut bien maîtriser le français. Parce que quand tu lis une traduction, tu dois absolument ne pas t'arrêter sur les mots. Ça doit couler de source. Donc, moi j'étais très bon en traduction quand j'étais à l'université, parce que justement... Je faisais beaucoup d'efforts pour que le français soit compréhensible, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une traduction. Quand tu lis, tu t'arrêtes pas, tu lis comme si c'était un roman français, quoi. Tu ne penses même pas que ça a été écrit en anglais. Ça, c'est très, très important. Et c'est le côté le plus difficile de la traduction, c'est rendre dans ta propre langue. C'est pour ça que je suis si exigeant à la fois sur la langue française, mais aussi sur la langue marquisienne. Quand j'entends des gens qui disent n'importe quoi, ça me déchire les oreilles et aussi le cœur, parce que je sais à quel point c'est important. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la langue que l'on parle, c'est en particulier le marquisien, c'est le seul lien actuel entre le présent et le passé. C'est le seul lien vivant. Puisque c'est le seul qu'on peut utiliser tous les jours. C'est presque la même langue. Bien sûr que c'est différent, mais c'est presque la même langue que parlait Kiatonou et Paetini et tout ça. Il faut y penser à ça. Sinon, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Les gens disent, mais non. C'est un trésor absolument inestimable que la langue marquisienne. Moi, ça fait 25 ans que je suis ici. Je suis un peu découragé de voir que ça n'évolue pas dans le bon sens. Je dois le dire, je le dis clairement. Je ne suis pas marquisien, je le sais. Si je l'étais, je me battrais beaucoup plus pour que les choses changent. Et c'est surtout auprès des enfants, des jeunes. Si les trentenaires, par exemple, ceux qui ont des enfants de 7-8 ans maintenant, ne parlent pas marquisien avec eux, c'est ça la clé du truc. Il faut parler français, il faut parler français à certaines périodes, mais aussi il faut parler marquisien. Mais il faut parler correctement. faut pas dire n'importe quoi. Je ne suis pas là pour donner des conseils. Mais si un étranger comme moi, il y a Koakate et Hao et Mea et Haakakoma et Eoenana, et Koakate, il y a Tahipito, il y a Pautu et Tao Enana, mais Tao Enata, et Tekao et Ato Eo, et Tekao Metai, To Ato Eo. Ah, ah, oh, et toi, et toi.
Merci, Jacques. On peut en parler.
Voilà, c'est ça. Je voudrais juste rajouter un truc. J'ai inventé un petit slogan pour les marquis. Je ne sais pas si quelqu'un pourra me dire si c'est bon. Je l'ai mis sur ma page Facebook maintenant. Parce que je pense que justement, ce qui manque un peu aux marquis, tout le monde est en train de se... L'autre jour, quand il y a eu les problèmes avec Teata ou Riva, les gens du Sud n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient plus leur bateau, et les gens du Nord n'étaient pas contents parce que le bateau ne fonctionnait pas non plus. Mais les gens disaient, ouais, ramenez notre bateau au sud, nanana. Bon, voilà. Il ne faut pas faire comme dans le passé. Je vais le dire, je vais te le dire comme ça. Etahi henua, te henua enana, hui. Etahi hua'a, te hua'a enana, hui. Etahi eo, te eo enana, hui, hui, huia.
Voilà, c'était notre invité de ce matin dans les studios de Marquise, M. Jacques Jacopo Pelo. Et il est tout juste... 9h30 passées, Jacques. Merci encore.
Et c'est moi qui vous remercie tous et qui te remercie, Sophie, de m'avoir invité. Et puis, venez tous au Salon du Livre à Taiohae. Et Hakahao, Apae.